La semaine passée, nous avons regardé, ils vont nous présenter Abraham, chapitre 12. Okay. Et puis, on a vu comment ce que le Seigneur a dit à Abraham, quitte. Alors, il pacte tout, puis il parte. C'est très impressionnant dans un sens parce que nous, aujourd'hui, on pense, bien, tu embarques une valise dans l'auto et tu t'en vas, right? Mais c'est beaucoup plus que ça. Il amène tout, tout. Les chaudrons, les marmites, ils amènent tout. Il part, puis quand il part, il n'y a rien qui reste en arrière. Il a tout pris, tout ce qu'il y avait. So, c'est quand même impressionnant de voir ce que Dieu demande et puis de voir comment est-ce qu'Abraham a réagi. Cette semaine, moi, j'aimerais couvrir, si je suis capable, Genèse 15 et 17, mais probablement on aura misère à se rendre à 17, mais on va s'essayer. La raison pour laquelle, c'est que dans chapitre 12, chapitre 13, chapitre 15 et chapitre 17, on a les promesses. Dieu fait des promesses à Abraham. Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez par rapport aux promesses. Vous aimez ça, les promesses? Pierre, il sourit un peu. Ça vaut qu'est-ce que ça vaut, right? Une promesse, c'est bien. On aime ça les avoir. Le problème, c'est est-ce qu'on va nous livrer sur les promesses. N'est-ce pas? On est là, puis on espère, puis on souhaite. Mais ici, on a des promesses que Dieu a faites envers Abraham. Et j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder en détail quelques-unes de ces promesses-là. Ce que je trouve un peu difficile quand je regarde tous les différents passages, c'est de voir comment est-ce que Dieu semble de bâtir une promesse par-dessus une autre promesse, par-dessus une autre promesse, par-dessus une autre promesse. Le premier, on a vu la semaine passée où ce qu'il a dit, on quitte et qu'est-ce qui va arriver? Dieu promet à Abraham qu'il va faire une grande nation. Hey, c'est glorieux, ça, c'est fantastique. Et évidemment, pour faire une nation, ça prend du monde. J'ai tout le temps pensé que chez nous, je pouvais créer la nation de 51-68 traditions. Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est chez nous. Mettre une petite clôture, puis charger les gens qui veulent rentrer. Je pensais à faire une nation de moi-même, mais ça se fait pas. Abraham est tout seul. Il part avec sa femme, son entourage. Est-ce que c'est vraiment une nation? Non. Abraham pense beaucoup de ça. Il faut aussi penser en termes de contexte. Le contexte, c'est chapitre 12. Ça suit, évidemment, chapitre 11. Et ce qui est fascinant dans chapitre 11, c'est comment est-ce que Dieu a divisé l'humanité dans les langues et dans les nations. Alors, quand Dieu dit ça à Abraham, c'est un certain contexte. Il y a une certaine image qu'Abraham va avoir. On va faire notre propre famille, notre propre nation, comme Dieu l'a déjà fait. Le problème quand quelqu'un nous fait des promesses, c'est est-ce qu'on doit les croire? Moi, chez nous, j'ai des enfants, et puis souvent, on faisait des promesses. Un point qu'on trouvait ça un peu ridicule, on s'est grillé d'une petite boîte de bois, à peu près gros comme ça, et quand un des jeunes faisait une promesse, on lui donnait un petit bout de papier, puis un crayon, puis il écrivait. Puis il écrivait, puis on mettait dans la boîte. Puis quand la boîte ferme, c'est à toi maintenant de l'accomplir, c'est sérieux, là. Tu l'as écrit. Un de mes jeunes avait dit que s'il gagnait une compétition à l'école, une compétition d'athlétisme, l'athlétisme, il était pour faire des courses, en fait compte. Et il dit, il avait tout pompé. Si je gagne, je rase ma tête. On a fait écrire, fait mettre dans la boîte. Il arrive le soir, puis on est à table, puis il dit, comment c'était la journée? Tu vas être obligé de me raser la tête, papa. J'ai fait ta promesse, puis là, j'ai gagné. Ça, il a passé l'été avec la tête. Complètement chaud. Pour ce bout de chose. Après ça, en passant, c'est devenu une tradition. Et à la fin d'école, on se rase la tête. Pas de cheveux pendant l'été. C'était drôle de voir les promesses, comment est-ce qu'on fait des promesses. Toutes sortes de promesses. Jamais je vais toucher une cigarette. J'ai trouvé ça bien, on a écrit ça, on a mis ça dans le boîte. Toutes sortes de promesses que les tout-petits faisaient. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut les croire? Est-ce qu'on peut les ignorer? Ça, c'est une autre question. Quand quelqu'un te fait une promesse, est-ce qu'on peut passer à côté? Il y a toutes sortes de promesses qu'on se fait dans la vie. Il y a des promesses qui sont importantes, il y en a des promesses qui sont plus ou moins importantes. La question, par exemple, un jeune homme, il a un ami avec lequel il se tient souvent, et à la longue, il aime tellement ça être avec cette demoiselle-là qu'il lui fait une promesse. Un jour, si tu veux, je vais te marier. Ça, c'est des mots dangereux, n'est-ce pas? Ça, c'est une promesse, toute une promesse. Et puis quand il réalise qu'il va le marier, là, il réalise qu'il va, quoi, il va être pris pour la balance de ses jours. C'est sérieux, là. C'est pas une petite promesse de rien, là. C'est important, ça va durer longtemps. Et quand on arrive devant l'église, devant le pasteur, et on nous demande, est-ce que tu vas prendre cette jolie demoiselle comme ton épouse? Et on dit, oui, je le... Il y a beaucoup de choses attachées autour de cette promesse. On dit oui. Et on prend pour la vie. Alors, on a cette notion que on a une promesse. Maintenant, quelqu'un nous fait une promesse, comment est-ce qu'on va savoir qu'il dit vrai? Dieu fait des promesses à Abraham. Comment est-ce qu'Abraham va savoir? La semaine passée, on a vu comment est-ce qu'il était sérieux, il a pris sa parole, il est parti. Mais il n'y avait pas de garantie.
Mais par la foi, mon ami Dan.
Par la foi. Et justement, c'est très important. Par la foi. C'est n'importe qui nous fait une promesse et on le prend par la foi, n'est-ce pas? Ça peut arriver dans bien des choses. Exemple, vous avez peut-être un coupon pour un repas gratuit dans un restaurant que vous aimez beaucoup, mais vous arrivez à la restaurant et les portes sont fermées. J'ai un coupon, mais quand c'est marqué fermeture, nous sommes fermés. C'est-tu juste pour la pause, juste pour l'après-midi, ou sont-tu vraiment en faillite et on est dans une situation plutôt pénible? C'est pas garanti. Abraham, il a levé toute la famille, il est parti, et il va avoir une nation.
J'avais pris une croisière à Montréal-Québec, et puis, quand je suis arrivé au port, il n'en faisait plus de croisière.
Non, ouais.
Il avait pris par le téléphone. Et
voilà. T'as-tu donné de l'argent?
Pardon?
As-tu donné de l'argent?
Ben, j'ai donné 100$, je veux dire.
Ah, ok. Tu as payé?
Ben oui.
Hey.
Il fallait payer avant.
Mais ça, c'est des promesses. On a des garanties. Quelles sont les garanties qu'on a? Quand Dieu fait une promesse, c'est toute une autre chose, n'est-ce pas? Alors, ce matin, on va voir les promesses que Dieu fait à Abraham. Et il y en a toute une liste. Pour vous autres, vous êtes ici. Je trouve que c'est bien vous donner la liste tout de suite, puis on va les regarder en détail. On a dit une nation dans Genèse 12, mais il y avait d'autres choses qui allaient avec ça aussi. Quoi d'autre qu'il a promis? Pardon?
Des descendants.
Des descendants, oui, une postérité. Yeah. Et rendu à Genèse 13, il va dire que c'est une postérité aussi nombreuse que la poussière. Alors, je ne sais pas vous autres, mais chez nous, on a de la poussière. On est sur un chemin de gravelle, tout est couvert de poussière. Il y en a de la poussière. Il va en avoir de la postérité. Il va en avoir des descendants. Il y a une promesse, hein? Tout est une promesse. Une autre chose qu'il a promis. Quelque chose qu'on n'y pense pas nécessairement, mais j'ai l'impression que pour Abraham, ça flattait un peu. Il va faire d'Abraham un grand nom. Et je ne suis pas sûr de vous autres, est-ce que ça vaut quelque chose le nom? Qu'est-ce que ça voulait dire à Abraham? Comment est-ce qu'il a compris cela? Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'était quand même impressionnant. Abraham va être tout un nom. Et d'ailleurs, on peut regarder à travers l'histoire, s'il y avait un homme qui avait tout un nom, c'était bien Abraham. Abraham qui est le père des Juifs. Et quand notre Seigneur Jésus rencontre les Juifs, les dirigeants, eux autres, ils disaient à Jésus, nous sommes les enfants de qui? D'Abraham. Ça, c'est un vrai nom, ça. C'est pas n'importe qui, ça. Et alors, il y avait cette promesse-là. Il y avait une autre promesse que moi, je trouve importante. Ça, c'est moi personnellement. J'espère que vous autres, vous avez la même perspective que moi. Mais dans Genèse chapitre 12, il nous parle que Abraham va être la source d'une bénédiction pour lui, pour sa famille et pour tout le monde. Et moi, je peux regarder en arrière et dire, si on n'avait pas Abraham, si Abraham n'avait pas été fidèle, si Abraham n'avait pas obéi à Dieu comme on a vu la semaine passée, qu'est-ce qui arriverait avec mon salut? C'est important, ça. Ça commence quelque part. Ça commence avec Adam, ça commence avec Noé et ça commence avec Abraham. Alors, on voit cette promesse ici d'être une source de bénédiction. Et aussi dans Genèse 12, verset 3, Dieu dit que si quelqu'un va maudire Abraham, ça va être un quoi? Source de malédiction. Et je pense à toutes les personnes à travers l'histoire qui ont essayé de faire du tort à Abraham, à ses descendants, comment ça allait mal. Je pense à Adolf Hitler qui voulait éliminer les Juifs et ça, encore, ça a mal viré pour lui. Je ne voudrais pas être dans ses bottines.
Mais quelle foi avait Abraham? Il avait 100 ans, pratiquement, puis il n'avait pas eu d'enfant. Bon, puis il avait dit qu'il était,
eh oui.
Il va avoir une prospérité autant qu'elle sort dans...
Incroyable, hein?
Incroyable.
Et lui, il s'attendait à voir quelque chose, puis jusqu'à cet âge-là, il n'a rien vu. Et ça, c'est vraiment spécial. Aussi, dans Genèse 15, on va parler du fait que Dieu promet à Abraham d'être son bouclier. Il y a un terme qu'on voit dans les psaumistes vont se servir de cette image souvent, mais Dieu s'annonce comme étant quoi? Celui qui va protéger Abraham. Et on l'a vu à plusieurs reprises à travers ces chapitres-là. La semaine passée, on a vu qu'il est allé en Égypte, il aurait pu facilement perdre la vie, et plutôt Dieu l'a protégé. On l'a vu ça. Ça, c'était important, cette leçon-là. Malgré le péché, le mensonge d'Abraham, Dieu l'a protégé pareil. Il lui a protégé, il a promis dans chapitre 15, on va voir ici dans verset 1 de chapitre 15, une très grande récompense. Okay? Et on va lui voir qu'il va lui donner une postérité encore, les descendants, on l'a dit tantôt. Mais cette fois-ci, là, il va lui montrer quoi? Pas la poussière, mais quoi? Les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux. C'est toute une question, toute une postérité. Et dans le chapitre 17, on a quelque chose que moi je trouve fascinant. C'est qu'on a justement la situation que Jacques déclare, il y a 99 ans, pas d'enfant. Comment ça va marcher? Et Dieu lui dit, hein, Sarah, ta femme, va te donner un fils et il va se faire nommer quoi? Isaac. Et probablement la semaine prochaine, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. Mais Isaac, juste pour vous donner un clin d'œil, le nom veut dire « il va rire ». Et moi, on pense à un petit enfant joyeux qui va être heureux, béni. Hein? Il va rire. Non, 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 ça n'a rien à faire avec ça. Ça va avec?
Ça va qu'il a ri dans la tente quand il a entendu la promesse.
Et Abraham qui a ri quand Dieu a fait cette promesse. En disant, je fais 90 ans, Sarah, 90, et les deux, ils ont ri. Et c'est comme Dieu est entendu. Oublie pas, quand ça arrive, tu vas repenser à ce moment-là où vous avez pris ça à la légère. Mais on comprend l'attitude d'Abraham, on comprend le point de vue de Sarah. Hey, on est rendu vieille, hey, on est rendu. Hey, c'est plus le temps.
Est-ce que c'est Sarah qui a dit, oh non, je ne vais pas lire, je ne vais pas lire, c'est non.
Elle a renié, oui.
Elle a renié dans la face de l'ange de l'Éternel, parce que c'est pour rien.
C'est pas pour rien. Mais, à travers toutes ces promesses-là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est fascinant. On le voit ici dans Genèse 15, verset 6. Et peut-être on peut juste lire Genèse 15, lire les premiers quelques versets. Verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Après ces événements, juste le contexte, chapitre 15 suit chapitre 14. 14, il y avait une guerre, Abraham a été victorieux, il a sauvé son neveu Lot, il y a bien des choses qui s'est présentées. Mais après toute cette action, tout ce tumulte, la parole de Dieu fut adressée à Abraham. Et Abraham, il dit, « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Et la question qu'on se pose, c'est la récompense pour quoi? La récompense pour ce qu'il a fait pour défendre les gens lorsqu'on avait ces guerres dans chapitre 14? Ou est-ce que c'est une récompense pour d'autres choses? Et moi, je pense que c'est une récompense pour d'autres choses, et on arrive à verset 6. Abraham, verset 2, il dit, « Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputait à justice. Ce verset 6, moi je trouve ce verset 6 incroyable, parce qu'on est ici dans une période de temps où ce que Abraham reçoit un paquet de promesses. Et quand je t'ai dit tantôt, on se voit le problème, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut le prendre comme du cash? Abraham l'a fait. Il a cru. Et le fait qu'il a cru, ça lui a été imputé à justice. Un homme pécheur, on l'a vu, on va le voir encore, c'est un homme qui n'est pas parfait, mais c'est un homme que Dieu a dit, tu vas croire en moi, tu vas recevoir une récompense. Tu vas avoir une récompense éternelle. Et ça, je trouve ça tellement important quand on regarde ce passage. Non, c'est pas juste moi qui te dis ça. L'apôtre Paul le dit dans Galates, il dit justement, il cite ce passage, que Abraham fut justifié par le fait qu'il a cru. Et aussi dans Hébreux 10, puis aussi dans Jacques chapitre 2, on réfère tout le temps à ce verset, verset 6 de chapitre 15, qu'Abraham a cru. Et pour nous, ça devient un modèle qu'on doit suivre comme être humain. Est-ce qu'on met notre confiance dans le Seigneur, dans tout ce qu'il nous dit, dans toutes ses promesses? Ou est-ce qu'on prend ça à la légère? C'est une histoire pour les enfants. C'est pas du vrai, mais c'est du vrai. Et c'est ça que Dieu veut. Non. La question qu'on arrive ici, et puis on va voir ça cette semaine, probablement la semaine prochaine aussi, on va revenir là-dessus, mais Dieu fait une promesse, OK? Et est-ce que c'est garanti? Et la question, c'est quoi la garantie que Dieu va donner? À un point que la promesse garantie devient quoi? Une alliance? Et on parle souvent de ça, je sais que vous entendez ça à l'Église. Je sais que des commentaires, on écrit beaucoup sur les alliances de l'Éternel. Et la question que je vous dépose ce matin, c'est quoi une alliance pour vous? Une alliance, c'est une promesse, un contrat, hein? Un engagement. Yeah. Et tantôt, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui voit une jeune fille, et puis qu'à la longue, il l'aime beaucoup, et puis qu'est-ce qu'il décide? Il veut la marier, mais en fin de compte, c'est juste la promesse. C'est quoi la garantie? Hein? Des bijoux? Un homme qui achète des bijoux, là, c'est un homme de qualité. Là. C'est une garantie. C'est une preuve. C'est un contrat. Et on signe des contrats. Et on s'engage. Alors, l'idée d'avoir une promesse, c'est le commencement à quelque chose de beaucoup plus profond. Si on pense aux alliances, et si on regarde en détail les alliances que Dieu fait avec Abraham, ce que Dieu fait avec les hommes, c'est des contrats. Et avec les contrats, on a des preuves et on a aussi des signes. Et on va regarder ça un peu en détail, comment est-ce qu'on démontre cela. Moi, je ne porte pas de bague. Le problème, c'est que moi, j'ai eu deux bagues. Et le problème avec les deux bagues, c'est que je les perds ou je les brise, un des deux. Les premières bagues que j'ai eues, après notre mariage, je travaillais dans une compagnie de construction. Puis j'avais mis ma main sur une palette de matériaux, puis je parlais avec quelqu'un. Puis il y avait un homme qui avait amené une autre palette pour mettre par-dessus l'autre. Il a mis la palette par-dessus, puis moi, je parlais tellement que je ne gardais pas. Puis il a écrasé ma main. Puis moi, j'ai eu aucun plaisir, mais pauvre bague. Hein? Mais ça, c'est un signe, c'est une garantie. Puis je me sentais mal. Puis j'ai dit, Axel, je vais aller m'acheter un autre. C'est une deuxième bague, devine quoi. Même chose, encore. Dommage. Mais on aime les preuves, on aime des signes. Et Dieu donne des signes. Il donne des preuves à Abraham pour démontrer. Et on va les voir un peu encore ce matin. Now, Dieu arrive en chapitre 15, il annonce à Abraham de grandes choses, et Abraham, il ne manque pas l'opportunité. Abraham, c'est un être humain, on sait qu'il est rempli de foi, il croit, mais de l'autre côté, il y a des doutes. Est-ce que vous l'avez senti? La première chose qu'il fait, il chiale, qu'il y a quoi? Qu'il n'y a pas encore d'enfant. Là, son héritier, c'est qui? C'est Éléazar, hein? Éléazar de Damas. C'est qui, ce gars-là? C'est la première fois qu'il est mentionné. C'est qui, Éléazar? C'est-tu la parenté? Et la question, il me semble que non, c'est pas la parenté. Autrement, Abraham, il ne chialerait pas autant. C'est qui, Éléazar? Je sais, c'est pas évident, mais... probablement. Pierre a raison, c'est probablement un serviteur dans la maison. Pourquoi? Parce que la coutume de ce temps-là, c'était simple. Si tu as des enfants, ils vont hériter tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir un testament compliqué. C'est des enfants qui pensent que papa laisse en arrière. Mais si tu n'as pas d'enfant, la deuxième personne qui est en ligne, c'est le serviteur à la maison qui s'occupe du maître depuis un bon bout de temps. C'est lui qui est reconnu comme étant le prochain membre de famille. Alors, on soupçonne que Éléazar a été justement... Sorry, Max. Alors, on a cette situation où Abraham a des doutes. Et c'est normal, on a des doutes. Moi, j'ai acheté un véhicule récemment, et puis le véhicule, il y a des défauts. Et j'ai des doutes. J'ai lu sur l'Internet, et c'est un défaut qui est connu. Et je me sens mal. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, on prend le téléphone, on appelle le concessionnaire, puis on dit, « Hey, ça marche pas. » Et quand on a un contrat, une garantie, on est protégé, on aime bien ça, quand il nous dit quoi? Amène-nous-les, on va s'en occuper. Ah! Rassuré, hein? Et Abraham a un problème avec les promesses de Dieu, puis le problème, c'est un vrai problème, c'est que, écoute, malgré toutes les choses que tu m'as promis, là, à date, j'ai rien vu. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de postérité. Où est-ce qu'est la nation? Ça va sortir d'où, ça? Et là, il chante. Alors, il voit très bien que les possibilités sont de moindre et de moindre. Et vous savez, on va parler de ça encore dans les semaines à venir. Dieu, la manière qu'il agit, Dieu, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est comme une force, mais en motion ralentie. Hein, vous avez déjà vu ça dans un film, à la télé. Quelque chose arrive et c'est comme le gars, le cameraman, il a changé de vitesse. Et tout à coup, tout se passe en lenteur. Est-ce que vous avez cette image-là? Abraham vit ça actuellement. Il arrive à un certain âge, je vais te dire tout de suite, il arrive à 85-86 ans, rendu au chapitre 15. C'est pas mal tard dans la vie pour avoir des enfants. C'est pas impossible, mais c'est pas mal tard. Et comme Jacques a dit, on va arriver à l'âge de quoi? 99 ans, puis comment? Alors, il est en train de dire, c'est pas vrai. Alors, Dieu va lui donner un signe. Et le signe qu'il veut donner, ce n'est pas un signe spécifiquement pour lui. C'est un signe qui est très générique. Et moi, j'y pense que presque chaque soir, quand je sors dehors, puis je regarde le ciel, puis je regarde, ça c'est le ciel qu'Abraham a vu il y a probablement à peu près 4000 ans. Et puis quand il regarde toutes les étoiles, suis-je capable de les compter? Est-ce que je suis capable d'énumérer? Puis évidemment, aujourd'hui, avec les télescopes, avec tous les chercheurs, le nombre semble avoir grandi énormément. Puis Dieu dit à Abraham, regarde, ça va être ta postérité. C'est une façon de voir ce que Dieu veut promettre à Abraham. Un signe. Pareil comme la poussière qu'on a mentionné dans Genèse chapitre 13. En verset 7, l'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? » Et l'Éternel dit, « Prends un génisse de 3 ans, un chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un tourterelle et une jeune colombe. » Et Abraham prit tous ces animaux. Puis la prochaine partie, je trouve dégueulasse et surprenant, mais il les coupait par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassait. Abraham demande à Dieu une preuve, une garantie. Et ce qui est surprenant ici, Dieu dit, prend ses animaux, il fait une liste, hein, il veut des animaux spécifiques, et Abraham les prend exactement comme Dieu l'a dit, mais il les coupe en deux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et ça, c'est difficile pour nous, des êtres humains qui vivent l'an 2024. On pense quoi, nous autres? On pense un contrat, ça se prend une preuve sur papier. Donne-moi quelque chose avec une signature, quelque chose qui est officiel. Un peu de comptant, ça aiderait aussi. Peut-être un petit dépôt, hein? Fais-moi une preuve, donne-moi une garantie, quelque chose que je peux me tenir et dire, ça s'en vient l'affaire. Non, dans le temps qu'on parle, semble que c'était une méthode de s'entendre entre deux personnes, c'est qu'on va prendre des animaux, on va les trancher, on va les séparer et on va marcher entre les deux comme preuve que nous deux, nous sommes d'accord avec l'entente qu'on a, avec les termes et conditions qu'on s'est négociés entre nous autres. Que ce soit une façon de paiement, que ce soit une façon de livraison, on fait ça pour définir la transaction avec ces termes et conditions. Animal coupé en deux, marche à travers. Je trouve ça vraiment violent et dégueulasse, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que c'était la norme. Entre rois, entre chefs de tribu, c'était une façon de se prouver l'un à l'autre qu'on est sérieux. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose qui est différent. OK? Abraham est tout seul. Où est-ce qu'il est? Dieu. Il l'attend. On va faire ça ensemble. C'est une entente entre nous deux. Tu vas me donner ça comme preuve, comme signe de le fait que tu vas respecter tout ce que tu m'as promis. Mais le Seigneur en motion ralentie n'arrive pas. Et pauvre Abraham, il voit les oiseaux de proie qui veulent venir manger les cadavres. Les autres, ils ont vu ça, ils ont dit « Wow, buffet, on s'en va manger à notre volonté et puis on va se rassasier. » Abraham est obligé de les chasser. Et pourquoi? Parce qu'il attend le Seigneur, il attend qu'il vienne. Et il nous dit, verset 12, qu'au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Alors moi, comme enfant, des fois à l'église, j'ai veillé trop tard le samedi soir. J'ai souvent l'impression, quand j'étais jeune, que c'est donc long le service. Ça prend du temps. Et qu'est-ce qui arrive? On commence à s'endormir. J'ai l'impression qu'Abraham était épuisé. Moi, quand, un enfant, en lisant ça, je me suis dit, « Ouais, c'est normal. il attend, écoute. Il n'y a rien qui se passe. » Mais j'ai l'impression que c'est plutôt que Dieu l'a donné justement ce sommeil. Parce que, « Et voici un frayeur et une grande obscurité virent la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et qu'on les opprimera pendant 400 ans. » Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu irais en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, Abraham recherche un signe. Dieu dit, prends les animaux, Abraham les coupe, il les prépare, il les conserve, il est fatigué, il s'endort, et là, Dieu l'approche et il lui dit quoi? Mais c'est quoi cette histoire-là? Ça n'a rien à faire avec les animaux. Ça n'a rien à faire avec Abraham qui n'a pas d'enfant. C'est quoi cette histoire-là? Et vous le savez, hein? Vous l'avez déjà lu. Vous avez lu Exode? Vous savez de quoi est-ce qu'il parle? Et il y a un élément que je veux qu'on prenne juste 30 secondes, puis qu'on repart en arrière, pense à ceci, OK? Qui a écrit Genèse? Qui a écrit l'histoire d'Abraham?
Moïse!
Moïse, il est dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils sont désobéissants, ils passent 40 ans dans le désert, et Moïse raconte l'histoire d'Abraham, et devine quoi? Il dit, Dieu a donné à Abraham un signe pour démontrer qu'il était pour garantir ses promesses. Et le signe, c'est quoi? C'est vous autres, les bozos. C'est vous autres qui étiez 400 ans en Égypte. C'est vous autres qui étiez esclaves et maltraités. Et maintenant, nous sommes sortis exactement comme Dieu avait promis à Abraham. Maintenant, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Dieu donne une prophétie, normalement, il donne une prophétie en multiples morceaux. Il donne une prophétie finale, quelque chose va arriver, mais souvent, il va exiger de le prophète qu'il va faire une prophétie qui est de très courte haleine, qui va démontrer avec précision la véracité de ce qu'il vient d'annoncer. Alors, Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir une postérité. Tu vas avoir une nation. Dieu propose un paquet de choses à Abraham. Mais il dit, pour te montrer que c'est vrai, dans un temps, tes descendants vont passer 400 ans en esclavage. Now, Abraham, je ne suis pas sûr que ça l'assurait de grandes choses. Mais moi, ça m'assure. Moi, je suis sûr que les enfants d'Israël en désert avec Moïse, eux autres, quand ils entendent ça, ils ont dit, ah, c'est nous autres, ça. Ils peuvent l'identifier 100% avec ce que Dieu est en train de dire. Pour dire, est-ce que Dieu va garder ses promesses? Amen! Oui, il va le faire certainement. Alors, on voit cette notion ici. Une prophétie qui est garantie par un simple signe qui va arriver et l'esclavage de 400 ans des enfants d'Israël, de Jacob, ils vont être en Égypte. Now, il faut penser ici qu'il dit ici que tu irais en paix vers tes pères. Dieu est en train de dire, toi-même, tu verras même pas ça. Toi-même, tu vas être un homme béni jusqu'à ta mort et tu vas avoir une vieillesse agréable. Et si on lit la balance de Genèse, on découvre qu'Abraham a vécu longtemps. Il est 175, c'est beaucoup, hein? Moi, je ne suis pas sûr que je voudrais vivre si longtemps que ça. Mais Abraham l'a vécu, il a eu des enfants, il a eu bien des choses. Et on a vu que Dieu était sérieux quand il a fait ses promesses. Now, verset 17 de chapitre 15, « Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et il dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Cananéens, des Kenziens, des Cadmoniens, les Éthiéniens, les Phérisiens et les Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gergaséens et des Jébusiens. » Wow! Ah, c'est tout un boucher, ça, hein? Alors, une des choses que je veux vous faire constater, c'est que Dieu fait une alliance. Pas une promesse, à ça. C'est une alliance. Il y a un contrat ici. C'est un contrat officiel. Et normalement, les deux sont supposés de passer entre les animaux. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est Dieu qui a passé entre les animaux. Puis Abraham était là à regarder. C'est une alliance unilatérale. C'est un contrat que Dieu fait avec Abraham. Mais Abraham n'a rien comme responsabilité. Dieu le fait, c'est garanti. Il y a des preuves, il y a des signes. Et il dit à Abraham, c'est pour toi. Et Abraham est là en train de dire, pour moi? Et je peux voir un peu, tu sais, on était énervé. Est-ce que c'est sa fête? Est-ce que c'est un cadeau? Et justement, c'est un cadeau. C'est un cadeau incroyable que Dieu est en train de lui faire. Il dit que ce terrain va être à lui, à tous ses enfants. Et il parle ici d'un nombre de différentes tribus qui se sont installés après le tour de Babel. Ils sont installés dans ce pays-là. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est que Dieu dit que leur péché n'est pas à la comble. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des péchés, ils ne sont pas finis. Et Dieu a une certaine patience, puis la patience n'est pas achevée encore. Mais quand ça va être achevé, on va les éliminer, ces différentes tribus. Ils vont payer une punition. Et c'est Dieu qui va envoyer les descendants d'Abraham pour l'accomplir. Et c'est pas facile, ça. Aujourd'hui, on dirait que c'est pas juste. Mais c'est ça que Dieu avait déterminé. Ça.
Oui, c'est juste, parce que si tu vois les péchés de ces peuples, j'ai mis le livre de Josué et ça s'est accompli.
Ah oui. Et la notion ici, c'est un plan que Dieu a. Et il met ça en place, il dit, eux autres, ils vont libérer ce pays pour vous autres. Et on va le voir dans le futur, quand justement, on va traverser le Jourdain, on va arriver dans ce pays-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu définit tous les termes et conditions, et Abraham, tout ce qu'il a à faire, c'est quoi? Il va récolter les bénéfices. C'est lui qui reçoit ça. C'est unilatéral. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé. Ce qui est important pour nous, quand on regarde ce passage, et lorsqu'on va regarder un peu la semaine prochaine, chapitres 16 et 17, c'est que Dieu traite tous les pécheurs comme il traite Abraham. Ce n'est pas juste Abraham qui reçoit cette simple bénédiction, ses promesses et ensuite les alliances. Ils sont offerts à nous aussi, n'est-ce pas? Dieu nous offre énormément de choses gratuitement, malgré que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est important pour nous autres à comprendre, que c'est une alliance qui est unilatérale, et c'est pas juste pour Abraham, c'est pour nous aussi. Now, est-ce que le pécheur va croire Dieu? C'est ça la question. Si Dieu fait toutes ses promesses, et lorsqu'on lit les Écritures, je sais pas, nous autres, on lit à tous les jours, et on est émerveillé de savoir que quoi? En 365 jours, il y en a tellement de promesses. Dieu n'arrête jamais de faire des promesses pour nous, les enfants de Dieu. Et nous, nous avons besoin de faire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire?
De croire.
De croire. Comme Abraham a cru et ça lui a fait imputer à justice, nous aussi, on n'a rien qu'à croire. Et quand on lit des versets comme Jean 3, 16, quiconque, n'importe qui peut croire. Ils ont rien qu'à croire, mettre leur confiance dans l'Éternel. Et cette semaine, on lisait, et je trouve ça fascinant un peu, c'est pas à croire à n'importe quoi. Moi, j'ai des gens que je connais, probablement vous aussi, qui disent « Ah, moi, je crois en Dieu. » Et là, on les met au mur. Quand ils disent ça, mais la question, c'est « Tu crois en Dieu? » Quoi exactement tu crois? Ben, qu'il y a un Dieu. Ouais, OK, c'est bon, ça. Puis quoi d'autre? Ben, c'est assez, non? Non, c'est pas assez.
Les démons croient aussi.
Hein?
Les démons le croient
aussi. Les démons le croient aussi. Amen.
On pourrait dire beaucoup de personnes croient en Dieu, mais c'est pas tout à fait la même définition.
C'est pas tout à fait la même définition, non, justement. Et qu'est-ce qu'Abraham croyait? Avec difficulté, mais il croyait. Qu'est-ce qu'il croyait? Si on fait l'inventaire de tout ce qu'on a vu depuis les dernières deux semaines, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru qu'il pouvait quitter chez lui. Il a cru que Dieu va lui donner une place, un pays, que Dieu va lui donner une postérité. Il a cru que Dieu va lui donner un enfant, mais il commence à avoir des sérieux doutes. Mais il croit pareil. Il met sa confiance que Dieu, de quelque façon, va le faire. Et moi, j'ai hâte quand on va parler d'Isaac et le sacrifice, parce que moi, ça, c'est vraiment le cœur d'Abraham qu'on voit. On voit vraiment comment est-ce qu'il croyait. Est-ce que nous, on croit dans l'Éternel qui est capable de nous offrir le salut malgré les péchés qu'on a faits, malgré la vie qu'on a menée autrefois? Est-ce qu'on est capable de mettre notre confiance dans le Seigneur malgré toutes les épreuves autour de nous, les maladies, les situations qui arrivent? Est-ce qu'on est capable de dire « Je crois dans l'Éternel » Parce qu'Abraham, c'est ça qu'il a fait. Le fait qu'il est parti, le fait qu'il s'est rendu, le fait qu'il avait même ses conversations avec l'Éternel prouve qu'il veut croire, il cherche à croire. Est-ce qu'il a 100% à la foi? Et ça, c'est important à constater que Abraham croyait. Nous aussi, on peut croire. Et c'est pas juste moi qui parle de ça, OK? Dans Genèse, dans Jean 8, 56, Jésus confrontait les leaders, les dirigeants, les juifs, qui se disaient, on est des enfants, des fils d'Abraham. Et Jésus lui dit, Abraham, votre père, c'est Jean 8, verset 56, il dit, Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Juste cette phrase-là nous amène un paquet de réalités importantes pour nous comme enfants de Dieu. Abraham, dans le temps, il a eu des promesses et il attendait l'arrivée de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est merveilleux quand tu penses qu'Abraham avait au moins cette révélation que Dieu était pour agir, pour lui amener un descendant si fantastique. Et nous, on sait un descendant qui donnait sa vie pour payer les péchés d'Abraham, payer les péchés de moi et de toi. On voit cette fascination-là. Mais il y a quelque chose d'autre qui dit ici, quoi? Il l'a vu. Il est en train de leur dire qu'Abraham est encore en vie. Il est mort, mais il a vu l'arrivée de notre Seigneur Jésus. So, Abraham est en train de se réjouir de voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis il y avait 2000 ans précédents. Et qu'est-ce qu'il avait promis était si merveilleux, si fantastique, et qu'il croyait et ça lui est fait imputer à la justice. C'est pour ça qu'il s'est réjoui, parce que les promesses de Dieu... Ça s'accomplit. Alors, ce qui est un autre élément qui est important à voir dans cette verset, c'est que Dieu fait ce que Dieu promet, mais quand? Quand ça lui tente. quand c'est... Et souvent, on veut que Dieu agisse tout de suite, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, j'ai déjà prié le Seigneur pendant un moment sur la chaise de dentiste, puis je voulais qu'il enlève la douleur, puis ben, ça a pris quand même une heure et demie, c'est pas... Seigneur, tu aurais pu agir plus vite que ça, non? Hein? On est des êtres humains, qu'est-ce que tu veux? On veut qu'est-ce qu'on veut. Mais Dieu fait qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Il a un plan, il va l'exécuter, il va le faire par ses propres moyens. Et ça, on va voir ça la semaine prochaine. Une des faiblesses d'Abraham, une faiblesse de toute l'humanité, c'est qu'on a souvent une bonne idée de comment est-ce que Dieu devrait agir, n'est-ce pas? Moi, j'ai quand même des idées, moi. Quand quelque chose arrive, Seigneur, c'est ça, bon, si tu fais ça, fais ci, si. Puis on se met à genoux, puis on prie pour ces choses-là. Est-ce que Dieu le fait? Non, pas toujours de ce moyen-là.
Ben, des fois, on dit, Dieu, on va t'aider, tiens.
On va parler de ça. Oui, moi je veux aider Dieu. Ah, je suis humble, mais c'est ça que je suis en train de faire. Moi je veux aider Dieu. Tu as raison. Mais on pense comme ça. Et on réagit comme ça. Mais il ne faut pas oublier que Dieu va faire ce qu'il a promis dans le temps qu'il veut. Je trouve ça intéressant comme concept et on va parler plus de ça la semaine prochaine parce qu'on va parler de les enfants. Qu'est-ce que Dieu nous promet pour nos enfants? Et on va voir dans chapitre 16. Et on va revenir au chapitre 17 encore. On va voir ce vieil homme qui encore attend ce fameux fils. Où est-ce qu'il est? Hein? J'attends encore. Amen. Bien, terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as aimés le premier, que tu as donné ton fils et que tu as... Faites des promesses à Abraham, des promesses que nous, on peut regarder à travers les Écritures et voir l'accomplissement. Seigneur, on peut voir les signes que tu as donnés à Abraham et on peut les regarder, la poussière de la terre, on peut regarder les étoiles et dire, oui, Seigneur, tu as promis et tu vas l'accomplir. Et Seigneur, j'aime ça penser que moi, je suis un de ces étoiles, moi, je suis un de ces bouts de poussière que tu as planifié il y a longtemps de venir me chercher. De me faire un enfant d'Abraham. Spirituellement, Seigneur, je voudrais être comme lui, que ma foi soit imputée à justice pour moi. Seigneur, je prie pour ces choses parce que je sais que tu es un grand Dieu, je sais que tu nous aimes et que tu nous as donné cette révélation pour qu'on puisse le voir, le comprendre, le mettre en application dans nos vies. Seigneur, on demande ces choses parce que tu nous as donné ton Fils. Et c'est par son nom qu'on demande ces choses. Amen.